Bonsoir et bienvenue à tous pour 45 minutes de débat entre journalistes autour de l'actualité de la semaine que vous propose Radio Okapi. Les principales informations qui suscitent les débats sont d'abord la République démocratique du Congo qui est passée finalement de 11 à 26 provinces après le démembrement de la province du Bandundu en fin de semaine dernière. Quels sont les défis et les perspectives qui attendent les nouvelles provinces? Et puis nous ferons le point sur le dernier rapport de la Commission des Nations Unies sur la mise en application du plan d'action pour la sécurité routière africaine. Sachez que la RDC est classée 3e meilleure nation africaine en cette matière après le Ghana et le Nigeria. Quelle analyse faire de ce classement de la RDC? Et pour tenter de répondre à ces questions, je reçois dans ce studio Joachim Diana, éditeur responsable du journal La Colombe, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Joachim, bonsoir.
Bonsoir.
John Ngomboa, journaliste et directeur des informations à Antenne A, une télévision privée qui est née ici à Kinshasa. John, bonsoir.
Bonsoir Berry, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi.
Et Jean-Baptiste Badera, il intervient depuis Bukavu au sud Kivu. Il est directeur provincial de Canal Future Télévision, une télévision qui émet à Bukavu au sud Kivu, et il est aussi correspondant de l'agence France Presse à Bukavu. Jean-Baptiste, bonsoir. Jean-Baptiste, vous êtes avec nous, bonsoir. Je crois qu'il va nous rejoindre dans un instant. Berry Franklin Luchaka vous dit merci d'être branché sur Radio Okapi. Et tout de suite, les débats sont ouverts. Comment la presse écrite a-t-elle analysé l'actualité de la semaine? La réponse est avec vous, Guy Maté, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir. La presse de cette semaine s'est penchée notamment sur le découpage territorial et le classement des Nations Unies en matière de sécurité routière. Le quotidien Forum des As annonce à la une découpage territorial, élection des gouverneurs, 15 nouvelles provinces bloquées. Les journaux rapportent que les cours d'appel chargés de connaître les contentieux électoraux et des scrutins des gouverneurs n'existaient pas encore. Le pouvoir central aurait mieux fait, estiment les confrères, d'installer d'abord ces juridictions avant toute élection. Pour sa part, le palmarès relève que, dans la conquête des nouvelles provinces, majorité et opposition sont devant un feu rouge. La prospérité annonce à la une répartition des sièges locaux, enfin l'indépendance de la CENI respectée. CENI, gouvernement, Assemblée nationale, finit donc le bras de fer. Écrit la Consoeur qui rapporte que le gouvernement a finalement décidé de sursoir à l'application d'une série de décrets, 13 au total, portant création de nouvelles villes et communes. Dans un bref délai, précise les tabloïds, le Premier ministre Matata Ponu va prendre un décret pour formaliser la décision du Conseil des ministres. Concrètement, renchérit le journal, les prochaines élections locales et municipales seront organisées sur base de la configuration de 2006. Sous le chapitre en rapport avec la sécurité routière, Radio Capiponet rapporte que la RDC est classée 3e meilleure nation africaine en matière de sécurité routière après le Ghana et le Nigeria. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui a publié ce classement la semaine dernière à Addis Abeba en Éthiopie, plusieurs indicateurs ont permis à la RDC d'atteindre cette place. Il s'agit notamment de la limitation de l'âge des véhicules importés et la baisse du taux d'accident sur la route. Le site rappelle qu'en mars 2010, les Nations Unies ont adopté la résolution 64-255, proclamant la décennie 2011-2020 comme décennie d'action pour la sécurité routière. 5 ans après cette résolution, la Commission a fait un rapport à mi-parcours qui classe la RDC au 3e rang des meilleures nations africaines en matière de sécurité routière. Sous un autre chapitre, le quotidien du groupe L'Avenir évoque à la une l'affaire Maître Bondo Assemblée nationale et renseigne que la Cour constitutionnelle rejette la requête, ce qui corrobore la prospérité sous le titre « Plainte contre l'Assemblée nationale, CNDH, la Cour constitutionnelle, déboute Maître Richard Bondo ».
Merci Guy Maté. Et parmi les autres sujets qui ont fait l'actualité cette semaine, il y a l'inauguration lundi de l'hôtel du gouvernement, un bâtiment de 9 étages construit sur le boulevard du 30 juin pour un montant d'environ 40 millions de dollars américains. Alors Joachim Diana, quel commentaire vous pouvez apporter sur cette construction?
Bon, en fait, c'est l'une des réalisations publiques du gouvernement depuis que la révolution de la modernité a été lancée. En fait, il faut visiter cet immeuble pour vous rendre compte que effectivement, lorsque vous êtes dans un ministère, il y a lieu d'être dans de bonnes conditions, même si là, il n'y aura que 8 ministères qui seront logés là-dedans. Le souhait et qu'il y en ait d'autres. Évidemment, on a annoncé qu'il y aura bientôt un autre immeuble au niveau de l'ancien Tembena Tembe qui abritera trois ministères. Et il faudra le faire pour que des ministères cessent d'être des locataires.
Mais on dit aussi que c'est un bâtiment intelligent, c'est vrai ça?
Bon, on dit ça, c'est une façon de parler. Il y a un confrère qui a renchéri que c'était un bâtiment surdoué, un peu pour reprendre la polémique autour du gouvernement Matata. Mais c'est pour dire que lorsque le ministre des Infrastructures à l'intérim a dit qu'il s'agit de bâtiments intelligents, c'est-à-dire en matière de sécurité, en matière de télécommunications,
truffé
de
caméras,
on peut même commander un repas qui vous vient sans personne, qui vient par chariot d'un étage à l'autre, là, c'est là, on dit c'est un bâtiment intelligent parce qu'on y a mis de la technologie moderne. Ça veut dire ça.
Alors, John Gomba, plusieurs ministères cessent d'être locataires. Est-ce que c'est une source de satisfaction?
Oui, parce que c'est une question de souveraineté. Les ministères, c'est là que se traitent les questions d'État. Et souvent, ils sont logés dans de maisons de particuliers. Et on ne sait jamais quelle sécurité il y avait là-dedans. Donc, voilà. Mais aussi, ça va faire pour le gouvernement congolais une épargne importante parce que il y a un important budget qui était alloué donc à la location au loyer de ces immeubles. Matata en a fait son cheval de bataille. Je crois que il y a eu une séquence assez cocasse lorsque le président Kabila voulait couper le ruban symbolique pour inaugurer le bâtiment. Il a cherché les premiers ministres et qui était bien l'un derrière. Il a dû l'attendre pour lui remettre ses bouts d'étoffe, une façon de reconnaître l'implication des Matata. Bon, je crois que maintenant Matata peut partir en paix. Il a fait son boulot.
D'accord. Alors Jean-Baptiste Badira, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, Denis Franca. Oui, on est ensemble. Oui.
Le coût de la construction est évalué à environ 40 millions de dollars américains. Qu'en pensez-vous?
Bon, c'est une bonne chose, Franklin, quand on a un bon bâtiment pour habiter les différents ministères, surtout qu'on sait que beaucoup d'entre les ministères étaient locataires. C'est donc une bonne chose, c'est une valeur ajoutée pour le gouvernement et pour le pays, parce que on pense qu'avec ça, il y a quand même une somme importante qui sera gardée pour autre chose, parce que quand on fait quand on voit les différents publics qui doivent être répartis en rapport avec les priorités, on sent que le gouvernement, la primature, la présidence, est celle belle presque toute la somme qui devrait être allouée à d'autres fins ou à d'autres activités importantes pour la nation. Mais le 40 millions, je n'ai pas encore été à Kinshasa depuis que ce bâtiment a été inauguré, je pense qu'il n'est pas nouveau. Et je pense aussi en tant que gouvernement, il y a quand même des matériaux qui devraient être exonérés. Et quand on circule dans les pays de l'Afrique de l'Est, qui sont proches de la province du Sud où nous sommes, on peut vraiment se demander comment un bâtiment dont on n'a pas commencé depuis la fondation, avec 9 étages, peut arriver jusqu'à 40 millions. Alors que sur Internet, facilement, on peut voir des bâtiments qui sont au-delà de 9 étages dans des pays comme la Tanzanie ou même le Kenya qui n'ont pas englouti cette somme. Mais c'est donc ça, mais l'essentiel est que le bâtiment est là.
Alors, puisque vous avez la parole, Jean-Baptiste, qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous à Bukavu aujourd'hui?
L'actualité n'est pas du tout rose dans cette partie de la République démocratique du Congo, au sud que vous, je voulais dire, avec l'insécurité qui refait surface. Et dans la province, il y a des prêtres de Kamanyola, dans les territoires de Walungu, qui ont été attaqués par une arme blanche et automatique par des hommes armés. L'argent qui était destiné à des actions caritatives a été emporté, près de 51 000 dollars. Il y a également dans les territoires de Shabunda, où il y a des combats qui sont signalés entre les FARDC et les Raia Mutomboki, selon Radio Maïmeleo, capté ce matin à Bukavu. Les FARDC ont réussi à déloger ces Maïmaï. Il y a également dans les territoires de Calais l'insécurité qui sévit avec les populations qui sont attaquées par différents groupes armés. Dans la ville de Bukavu, il y a également des quartiers communs où ils pensent dans la commune d'Ibanda qui vivent dans une insécurité terrible. Et selon certains médias, il y a le fait qu'il y a l'effectif de la police qui n'est pas suffisant pour sécuriser la population.
D'accord, merci beaucoup. Alors, l'autre actualité de la semaine nous amène en dehors de nos frontières, précisément au Sénégal. Et c'est là que s'est ouvert lundi le procès de l'ancien chef d'État tchadien Hissène Habré. Et l'on notera que la justice sénégalaise a reporté au 7 septembre prochain le procès de l'ex-président tchadien, un jour seulement après son ouverture à Dakar au Sénégal. La Cour justifie ce report par le fait qu'elle veut permettre aux avocats commis d'office pour la défense de l'accusé d'avoir le temps de prendre connaissance du dossier. Alors, John Gomboa, une cour africaine jugée un ancien chef d'État africain. Quelle lecture vous faites de ce procès?
Bon, c'est qu'il est, il est grand temps que les Africains s'occupent d'eux-mêmes. On est en train de décrier la CPI. Moi, je crois que c'est un procès référence. On va voir comment il va se dérouler pour que, bon, ben, désormais, on puisse régler nos affaires en famille. Je dois aussi avouer que c'est quand même assez délicat de constater que c'est un ancien chef d'État
accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et de tortures pendant l'exercice de son pouvoir.
Oui, parce qu'il y, a, il y avait une forme de sécurisation au niveau des de chefs d'État, des anciens chefs d'État en tout cas, une forme de club. Bon, ben là, ils ont décidé carrément de briser les voiles et de mettre à bré devant la justice. Maintenant, je ne sais pas quelle sera l'issue du procès.
Alors, Joaquim Diana, comment vous avez analysé l'attitude de l'ex-dictateur tchadien? On l'amène de force pratiquement lors du procès, de l'ouverture du procès. Il refuse de parler, il interdit même à ses avocats de pouvoir préparer la défense. Comment vous avez analysé cette attitude?
Ah ben, j'estime ça que c'est de bonne guerre. Lorsque vous avez un procès où a écouté tout le monde, Hissène Habré était déjà coupable. Vous n'entendez nulle part où on émet des doutes. Tout le monde est certain qu'il a commis des coupables. Donc, le procès sert tout simplement de formalité pour le condamner.
Mais a tué 40 000 personnes durant l'exercice de son mandat?
Oui, mais tout à fait. C'est ce qu'on dit. Il a tué 40 000 personnes. Bon, ça mérite d'être jugé. C'est pourquoi certains gens disent que le président Idriss Déby, qui était un de ses collaborateurs, un de ses chefs d'état-major, devrait être aussi dans les box pour être accusé. Et donc, lorsque on sent que celui qui l'accuse, c'est un adversaire politique qui l'a chassé de pouvoir après une guerre qui n'était pas avec du parfum, mais avec des armes, il y a des gens qui sont morts. Moi, je pense qu'il y a des responsabilités de part et d'autre. Lorsque c'est déjà le procès est visiblement politique. Celui qui attise les faits, c'est un adversaire politique. Bon, même si on a...
À noter aussi que l'État tchadien n'était pas constitué en partie civile.
Tout à fait. Alors maintenant, ce sont les ONG, ce sont des individus. Moi, je pense que c'est un procès pédagogique, certes, mais ça a fait aussi jurisprudence. Et on va ouvrir une boîte à Pandore. Il faudra que demain, Macky Sall, il suffirait qu'une ONG manipulée par son adversaire politique le traduise aussi en justice. Il faudra qu'il accepte de comparaître. Mais avoir l'attitude de Hissène Habré, moi je pense que ce procès, il ne parlera pas.
D'accord. Alors, Jean-Baptiste, comment le procès d'Hissène Habré est-il analysé chez vous à Bukavu?
Beaucoup de gens pensent que, bon, on risque de finir comme on a vécu quand il est entré à la présidence, à la tête du pays en 1982. Il a d'abord commencé par limoger, supprimer le poste du premier ministre, et puis tous les partis politiques de l'opposition ont été réduits à leur plus simple expression. Selon plusieurs rapports, on parle de 40 000 personnes qui seraient tuées. Il y a 80 000 orphelins que ces victimes ont laissés. Et que donc, voilà, on pense que quand on veut diriger dans une dictature, et on est condamné à finir comme ça. Et on pense aussi que ce n'est pas le président sénégalais qui est à la base de justice, ce procès qui vient de s'ouvrir au Sénégal, à Dakar, mais c'est plutôt la persévérance des victimes qui ont supporté, qui ont résisté. Parce que depuis 2000, les victimes ont déposé plainte, mais il y a eu cette résistance de la justice sénégalaise.
Et il a fallu attendre 15 ans.
Mais à cause de cette persévérance, à cause de la pression internationale et à la demande de l'Union africaine, voilà que le procès s'est ouvert finalement.
D'accord. Tout de suite, nous entrons dans notre premier thème de la soirée qui concerne le passage de 11 à 26 provinces. Amorcé le 11 juillet dernier, le découpage territorial est arrivé à son terme samedi dernier avec le démembrement de Bandundu, désormais scindé en 3 provinces. Et en une semaine, la RDC compte maintenant 26 provinces. Et du coup, ce découpage administratif amène avec lui des réajustements dans les secteurs de la justice, les régies financières et les forces de sécurité. Explication de Jacques-Yves Moliman.
Pour déjà s'y conformer, deux ordonnances présidentielles signées le 14 juillet dernier réglementaient et réorganisaient la police nationale et la direction générale de migration des GEM. En effet, les 26 provinces de la RDC ont été dotées à la PNC des commissaires provinciaux et leurs adjoints, à la DGM des directeurs provinciaux et des adjoints. Ce réajustement devrait l'être également et c'est le défi qui reste à relever dans les autres secteurs. Il s'agit premièrement dans les secteurs de la justice. Il faudrait penser à des cours de tribunaux, notamment des cours d'appel, dans les différents chefs-lieux de ces nouvelles provinces. Cela d'autant plus que les élections approchent et amènent avec elles les contentieux électoraux. Il ne faudra pas qu'avec un contentieux électoral enregistré à Bouta dans la province du Bazouélé, qu'on ait à recourir à la cour d'appel de Kisangani, désormais chef-lieu d'une autre province, la Tchopo. Il faut également réajuster les directions provinciales des régies financières, la DGDA, la DGI, la DGRAD, pour ne citer que cela. Mais également tenter d'encadrer les différents bureaux de direction des recettes provinciales, à l'instar des DGRPO en province orientale. Enfin, l'on devrait également réajuster les commandements dans l'armée. Ces nouvelles provinces devraient être dotées chacune d'un commandement militaire, comme c'est le cas dans la police.
Merci Jacques-Yves Molima pour ces précisions. Et pour vous qui venez de nous prendre en cours, sachez que la tribune de la presse ce soir reçoit Diana Gikoupa, Joachim, éditeur du journal La Colombe, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa, John Gombois, journaliste et directeur des informations à Antenne A, une télévision qui est mise ici à Kinshasa, et Jean-Baptiste Badera, directeur provincial des Canal Futur, une télévision qui est mise à Bukavu, et il est aussi correspondant de l'agence France Presse. La grande question qui se pose ici, c'est de savoir quels sont les défis qui attendent ces nouvelles provinces. Alors Joachim Diana, on est finalement passé à 26 provinces et nous y sommes. Comment vous analysez ce passage?
En fait, au terme de la constitution du 18 février, il était dit que 3 ans après l'installation des institutions de la Troisième République, il fallait passer à 26 provinces. Cela n'a pas été le cas. 3 ans après, on était obligé de mettre en place une loi de programmation et que maintenant, il était question de passer à l'œuvre et on y est passé de la façon dont on dit brutal. Vous savez que c'est une démarche qui vient de longtemps. Depuis Mobutu, on avait dit on y va lentement par expérimentation. C'est ainsi que le Kivu a été divisé à 3. Mais imaginez-vous, depuis que Kivu avait été divisé, je crois, autour des années 80, jusqu'au jour où tout le temps est passé. Et si on restait dans cet état-là, on terminerait encore 30 ans, 40 ans, 50 ans, sans jamais passer.
Donc vous êtes d'accord le fait que nous serons passés de manière forcée et presque brutale à 26 provinces?
Je suis totalement d'accord, mais je ne suis pas indifférent à ce qu'il y aura comme défi à relever. Parmi les défis, il y a le niveau de l'État qui sera augmenté. Il faudra, au lieu de 11 gouvernements provinciaux, il en faudra 26. Tout cela, c'est le niveau de vie de l'État qui va augmenter. Il faudra trouver le moyen dans la fameuse rétrospection. Et il y aura maintenant plusieurs rétrospections dans plusieurs provinces. Et tout comme les défis, on vient de parler, il faudra des cours. Là, tellement je ne suis pas tellement inquiet à ce qui concerne les cours d'appel et consort, parce que un Tchadien Idriss Déby est jugé au Sénégal, mais qu'un contentieux de Bouta soit jugé à Kisangani dans le même territoire, je ne vois vraiment pas où est le problème.
D'accord. Mais, voilà. Est-ce que John partage le même avis que Joachim?
Moi je croise les doigts parce que nous sommes au carrefour d'une situation qui peut nous élever au firmament ou bien nous emmener aux enfers, hein, malgré qu'il y ait des signaux qui ne rassurent pas. Mais bon.
C'est quoi ces signaux qui ne rassurent pas?
Mais les signaux qui ne rassurent pas, c'est le moyen ne suivent pas encore, parce que vous entendrez ici et là, oui c'est bien, mais il faut du moyen. Et nous sommes dans un contexte où les moyens sont plus que rares. Et du coup, nous allons nous retrouver dans des situations où les institutions sont créées, installées, enfin, mais pas installées, parce qu'ils n'ont pas les moyens de survivre. Et là, ça va être une vie institutionnelle plus qu'au rabais. Pour quel rendement? Donc, bon, là, on s'est jeté à pieds joints dans la piscine. Bon,
là, c'est clairement dans le fleuve.
Oui, oui, espérons.
Donc, moi, c'est déjà au 31 juillet qu'il y aura élection des gouverneurs. Est-ce que vous pensez que la CENI saura respecter ce délai?
Oui, mais organiser l'élection d'un gouverneur, ça coûte rien du tout, hein. Et d'autant plus que ça c'est dans
c'est 9 élections.
On peut les multiplier par autant. Ça c'est dans un espace fermé avec un nombre déterminé d'électeurs. Et donc même avec une seule urne, et voilà, ça là ne me paraît pas le plus grand problème, mais le plus grand problème c'est d'avoir les animateurs qui seront capables de se sublimer pour transformer ces nouvelles entités réellement en acteurs majeurs de la vie nationale, hein. Parce que si on a que des gens qui vont aller pour se servir, devenir gouverneur, devenir président de l'Assemblée provinciale, ainsi de suite, nous on est vraiment mal barrés. Donc il faut que nous soyons exigeants à l'égard de ces nouveaux animateurs de ces institutions, autant qu'à l'égard de tous les autres.
D'accord. Alors Jean-Baptiste, vous, votre province n'est pas concerné par le démembrement, mais au moins vous avez suivi le démembrement de toutes ces 26 provinces. Comment vous avez analysé ce passage de 11 à 26 provinces?
Oui, exactement, Franklin, on l'a analysé de la manière comme Diane l'a dit, et c'est depuis le 10 juillet 2006 que ça sort de cette constitution-là. En déjà 36 mois, à partir du 18 juin 2010, on devait déjà découper le pays en 26 provinces. Mais ça n'a pas été le cas. Donc là, on peut dire, on est tenté de croire, on dit que là, s'il y a eu violation de la Constitution, c'est seulement en janvier 2011 qu'on a fait une loi de programmation, et après avoir consommé toute une année sans rien faire, et voilà qu'aujourd'hui, on vient de découper, on vient d'avoir les 26 provinces dans le pays. Comme vous venez de le dire, comme Ngombo l'a dit, il y a élection déjà les 31. Tout ce prochain,
juillet.
Alors que le ministre de l'Intérieur, Evariste Bossade, avait déjà donné sa date, alors qu'il sait effectivement bien que ce n'est pas son rôle, et la CENI a recadré les choses, et on a maintenant ce calendrier de la CENI pour le 31 août prochain. Et quand on dit, on voit nécessairement le 17 septembre, qu'on va proclamer, après avoir annulé tous les litiges, sur les textes qu'il y a comme erreur, c'est le 17 septembre qu'on aura le nom des nouveaux gouverneurs. Les gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Or, on sait très bien que déjà le 23 septembre prochain, ça devrait ou ça sera. Ça sera la campagne électorale pour l'élection des députés provinciaux. Et ces élections des députés provinciaux vont aboutir à l'élection du nouveau gouverneur en janvier 2016. Et je me demande comment est-ce qu'on va avoir des gouverneurs déjà le 7 septembre qui savent très bien qu'ils vont seulement faire 5 à 6 mois à la tête des provinces. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas comme travail dans des provinces qui sont presque des sentiers, et je crois qu'il y a vraiment un problème de planification. Le moment n'a pas été bien choisi à mon avis, et pour ce découpage-là, déjà on est presque pessimiste par rapport au fonctionnement et même à la gestion, parce qu'un gouvernement qui s'est tiré là pour 5 mois ou 6 mois, pensez quel sera son comportement, et quand on voit comment fonctionnent les différentes assemblées provinciales avec des moyens financiers difficiles, avec tout le temps des conflits avec l'exécutif pour réclamer ça et ça, c'est déjà compliqué. Donc d'abord sur le plan des infrastructures ça pose problème, sur le plan temporel ça pose problème, et même par rapport au calendrier, et je crains que ceci ne puisse nous amener à cette crainte de glissement que d'aucuns
Réduit.
Sont en train de présager.
D'accord. Alors donc vous êtes déjà entré en plein défi qui attendent les nouvelles provinces. Alors Joachim, il y a l'aspect des infrastructures, il y a les aspects sécuritaires, il y a les aspects même du temps, le facteur temps tel que l'a évoqué Jean-Baptiste. Quels sont les défis que doivent relever les nouveaux gouverneurs qui vont être élus d'ici là, ou peut-être les nouvelles provinces?
Oui, tout à fait. Il y a une précision à apporter que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Evariste Boshab, n'avait pas fait un calendrier d'élections. Il avait déterminé les périodes où les élections devraient se faire.
Et la CENI a parlé du 31 août finalement.
Tout à fait. Et la CENI, profitant de ces espaces qui lui ont été ouverts, fait un calendrier. C'est ça la précision. En ce qui concerne le gouverneur, ils ne sont pas élus pour... pour 5 ans. Ils sont élus pour terminer les mandats qui est supposé être les mandats des gouverneurs actuellement en fonction, dont le mandat se termine avec les prochaines élections
provinciales. Mais on sait aussi en même temps que la plupart des gouverneurs qui sont là ils ne sont pas dans leur mandat au fini.
Mais tout à fait, c'est cela. On prendra par exemple celui de l'Équateur qui était là, il était intérimaire. On prendra dans beaucoup de problèmes.
Celui de Kinshasa, de l'Équateur, du Katanga, ils ont fait deux mandats carrément.
Voilà, celui par exemple de Bamanissa. Bamanissa a été élu pour remplacer le gouverneur Aouchai qui était devenu incompatible pour avoir été élu
député.
Alors, il était élu pas pour 5 ans, mais pour terminer le mandat d'Aouchai. Tout comme celui qui sera élu après, pour lui, c'est pour terminer le mandat d'Aouchai.
Mais maintenant, à quoi ça sert finalement de pouvoir élire quelqu'un qui fera 4 ou 5 mois? Qu'est-ce qu'il va faire à la tête
mais
du gouvernement?
C'est cela la loi électorale qui dit qu'en cas de vacances, on élit le nouveau gouverneur. En ce qui concerne les défis, c'est vrai, il y a un défi terrible des infrastructures. Vous savez qu'il y a même Kinshasa lui-même, l'Assemblée provinciale n'a même pas un siège. Mais c'est maintenant que le gouvernement lui-même a déjà son hôtel du gouvernement provincial. Et au Bas-Congo, on est en train de construire et tout ça. Mais quand vous allez dans la province de Maïndombe, qui est issue de la province du Bandundu, je ne sais pas si c'est la situation a évolué la dernière fois que j'étais là-bas. Il n'y avait même pas un hôtel, il y avait une petite auberge qu'on appelle ici hôtel Binsekwa Kinshasa. Ça, avec au moins 9 chambres seulement, chef-lieu. Donc, il y avait à peine 3-4 voitures. Et on opérait dans l'hôpital avec la lampe tempête. Il avait fallu que le vice-président Hérode, à l'époque, ait donné un groupe électrogène. Alors, c'est pour dire qu'il y a des infrastructures. Mais c'est un défi qu'on va relever. Voyez, notre ami de Bukavu sait que quand on a découpé le Kivu, Goma était de très loin par rapport. Mais aujourd'hui, Goma dépasse de loin Bukavu, qui
est la ville-mère. Alors, Joel, en parlant finalement des élections qui auront lieu le 31 août prochain, il y a certaines formations politiques qui auraient déjà trouvé leur candidat. Est-ce qu'on ne risque pas finalement de se retrouver avec les mêmes personnes à la tête des nouvelles provinces?
C'est très possible, parce que ce que vous allez voir, c'est qui élit le gouverneur. Ce sont les députés provinciaux. Quelle était la tendance de ces députés provinciaux? Donc, ils vont forcément élire les gens qui étaient proches de leur tendance politique. Donc rien à faire, il ne faut pas s'attendre à un miracle politique. Quand on prend par exemple les cas du Kasaï occidental, où selon une loi non écrite, les gouverneurs et le loi et les vice-gouverneurs et ce qu'on appelle unité kassaïenne. Mm-hmm. Pareil aussi au Kasaï oriental. Mm-hmm. Donc l'unité kassaïenne aujourd'hui, c'est pratiquement Chikapa, la province.
Chikapa avec les pendés,
voilà, les Koukoué, voilà. Voilà. Et alors vous prenez maintenant les vice-gouverneurs en fonction, ils se positionnent comme gouverneurs pour se faire élire là-bas. Mm-hmm. Donc ça sera forcément là, on retrouvera des figures connues dans la territoriale.
Mais les figures connues pour quel défi? Parce qu'on l'a évoqué, il y a les infrastructures, il y a le temps, il y a etc. Comment doivent-ils relever les défis qui les attendent?
Bon, les défis, moi je crois que ça va dépendre maintenant aussi d'une impulsion venue et de la population et du pouvoir central. Parce que tous ces gens, croyez-moi, ce qu'ils vont faire sur le reste du temps, 6 mois, c'est mettre de l'argent dans la poche, tout simplement. À la limite, ça sera peut-être gérer les affaires courantes par rapport à une planification qui était faite à l'époque dans la province non découpée, mais qui concernait cette partie. Mais cela dit, il y a énormément des défis en termes d'infrastructure.
Et aussi en termes de justice, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des cours et tribunaux.
Oui,
même si,
mais ça participe des infrastructures, justement. Construire un palais de justice, construire
y
un
des magistrats.
Oui, voilà. Donc, je pense pas que ça soit possible dans 6 mois.
Alors, Jean-Baptiste, est-ce que finalement on ne saute pas dans un inconnu dont on ne sait pas comment s'y prendre?
Oui, justement, hein, parce que quand vous analysez les propos de Ngombwa, vous sentez effectivement qu'il y a des défis énormes à relever. Et quand notre aîné Diana parle du cas du Kivu, avec Nord-Kivu, Sud-Kivu et la province du Maniema, c'est très différent, le contexte donc tout à fait différent, qu'on ne peut pas dire que non, Goma a quand même évolué par rapport à ce qu'il était depuis très longtemps. Là, le contexte, l'environnement politique était très différent d'aujourd'hui parce que ça s'ajoute, c'est encore de nouvelles élections qui s'ajoutent au calendrier, là tu le savais, des élections, et je ne sais pas Je ne suis pas sûr que les moyens vont suivre par rapport à tout ça. Et je crains que cela ne puisse empiéter sur le calendrier initial prévu pour les élections connues depuis très longtemps. Mais par rapport à tout ça, moi, je suis vraiment pessimiste. Et avec c'est une équation à plusieurs inconnus, justement. Déjà, vous avez suivi certaines voix se lever pour dire que non, il y a là où il y a tellement des véhicules. J'ai pris toutes les dispositions, je cite celui qui est passé dans un média pour dire ça. Un sera réservé au président de l'Assemblée nationale, un autre au gouverneur qui va venir. Et vous sentez d'autres n'ont même pas d'infrastructure. Et je crois que nous, comme journalistes, on a souvent des occasions pour circuler dans le pays. Et on sait dans quel état ces provinces se retrouvent. Mais bon, essayons de voir et attendons voir ce qui va se passer avec espoir que, bon, peut-être que le gouvernement central va donner les moyens nécessaires pour que ces nouvelles provinces pour quitter les sentiers battus parce que c'est vraiment très, très difficile les conditions dans lesquelles évoluent différentes provinces qui viennent d'être érigées de nouvelles provinces, hein, les différents territoires qui viennent d'être de nouvelles provinces. Je vois que ça va être très compliqué pour l'avenir et moi en tout cas, à faire que de ce que j'ai dit par rapport à l'environnement, par rapport à ce qu'il y a comme feu de route sur le plan électoral, je confie l'avenir par rapport à ces processus au hasard.
Et donc, selon vous, vous craignez plus le glissement?
Exactement, parce que je vois mal comment on va respecter le calendrier. Déjà, Franklin, il y a l'argent qui n'est pas encore là, selon plusieurs sources hein, pour organiser les différentes élections. Il y a des élections qui pointent à l'horizon. Je suis déjà presque, je ne sais pas, je ne vais pas préjuger les animateurs de la CENI, mais pratiquement, je crains ce glissement, je crains que cela ne puisse bousculer un peu la programmation de la Commission électorale nationale indépendante.
Merci beaucoup et nous passons tout de suite à notre deuxième thème de la soirée qui concerne la RDC qui a amélioré sa sécurité routière. Et donc, la RDC est classée troisième meilleure nation africaine en matière de sécurité routière après le Ghana et le Nigeria. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique qui a publié ce classement la semaine dernière à Addis Abeba en Éthiopie, plusieurs indicateurs ont permis à la RDC d'atteindre cette place. Il s'agit notamment de la limite d'âge de l'importation des véhicules et la baisse du taux d'accidents sur la route. Mais sur base de quels critères aussi s'est basée la Commission des Nations Unies? Élément des réponses avec vous, Jolie Daniel Kachama.
Situons d'abord le contexte de la rédaction de ce rapport. En mars 2010, les Nations Unies ont adopté la résolution 64/255 proclamant la décennie 2011-2020 comme décennie d'action pour la sécurité routière. Les Nations Unies veulent multiplier, à travers cette résolution, les activités menées au niveau national, régional et mondial afin de stabiliser puis de réduire dans le monde entier le nombre des morts dues aux accidents de la route. 5 ans après cette résolution, la Commission a fait un rapport à mi-parcours qui classe la RDC au troisième rang des meilleures nations africaines en matière de sécurité routière. Pour y arriver, 5 critères ou piliers ont retenu l'attention de la Commission, à savoir la gestion de la sécurité routière, la sécurité des routes et mobilité, la sécurité des véhicules et des usagers, les réponses après accident, ainsi que les questions transversales. Pour tous ces critères, seuls 23 pays sur les 54 que compte l'Afrique sont classés par la Commission, les 31 autres ne fournissant aucun effort. Et sur les 23 pays, la RDC occupe la troisième place en obtenant une note de 40% en termes d'efforts pour l'application des mesures de sécurité routière, ex aequo avec l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et la Côte d'Ivoire. Le Ghana et le Nigeria occupant respectivement la première et la deuxième place. Cependant, ce rapport note les défis qui sont à relever d'ici 2020. En ce qui est des transports en zone rurale, le rapport à mi-parcours constate qu'il y a une plus forte proportion d'activités pour lesquelles les pays ont pris des mesures peu significatives, ce qui suggère, à en croire les documents des Nations Unies, que la plupart des pays n'accordent que peu d'importance à la sécurité routière en zone rurale.
Merci. Merci Jolie Daniel Kachama. Alors John Gombo, est-ce que vous êtes surpris par ce rapport de la Commission des Nations Unies?
Je ne voudrais pas bouder mon plaisir pour une fois que le pays se retrouve dans une position
très bonne
intéressante. Je voudrais pas faire la fine bouche, mais je suis quand même interpellé parce que ceux avec qui on est là dans cette danse, ils sont à un autre niveau des infrastructures routières. Moi, je crois qu'il y a eu un défaut. Il y a eu un défaut de jugement en ce qui concerne la RDC. La RDC a été jugée sur base de ce qu'elle présente comme kilomètres de routes asphaltées. Et nous savons que l'essentiel de ces routes se trouve à Kinshasa. Pour l'instant, nous avons la nationale numéro 1, le Congo central vers Kinshasa, et puis 500 kilomètres vers le Bas-Congo, vers le Bandundu.
L'ancienne Bandundu, voilà.
Oui, l'ancienne Bandundu, donc c'est...
On va t'habituer.
Voilà. Et puis une partie au Katanga, une partie des routes asphaltées au Katanga. Donc je crois que c'est presque tout. Il y a un kilomètre au nord Kivu, à Goma.
Mais la baisse du taux d'accident de circulation, ça ne...
Non, en fait, je lis ça... Mm-hmm. Au kilométrage faible des routes asphaltées.
Ah, okay.
Donc, moins il y a des bonnes routes, moins il y a d'accidents, en fait. Donc, nous avons, grosso modo, autour de 2000 kilomètres de routes asphaltées. Alors, si vous comparez 2000 kilomètres de routes asphaltées avec 20 000 kilomètres de routes asphaltées, vous avez plus d'accidents sur 20 000 kilomètres de routes asphaltées.
Mais il y a aussi les facteurs des véhicules, l'âge des véhicules à l'importation.
Oui, toujours 10 ans, tout à fait. En fait, moi, je dis que je ne voulais pas bouder mon plaisir. Hein. Mais je voudrais aussi considérer ça comme étant une interpellation. Mm-hmm. Parce que ceux avec qui on joue... Ils sont en réalité dans une autre catégorie du point de vue des infrastructures routières, bien entendu.
Notamment le Ghana, le Nigeria,
la Côte d'Ivoire. Donc, mon interpellation, c'est, écoutez, il y a quelque chose de bien qui est fait, mais essayons de l'élargir en gardant le même concept, en gardant le même cadre, c'est-à-dire la sécurité et ainsi de suite. Si on passe de 2000 à 10 000 kilomètres en gardant le même référentiel, ce serait déjà ça. Mm-hmm. Mais nous avons été appréciés sur un espace insuffisant d'activité.
D'accord. Alors, Joachim, est-ce que à Kinshasa, par exemple, le classement de la RDC s'explique?
Bon, mais écoutez, j'aimerais bien renverser le raisonnement de Dion Ngomboa. Mm-hmm. Moi, je pense que plus on a de bonnes routes, moins qu'il y a d'accidents. Maintenant qu'il y a de bonnes routes et qu'on a une bonne police de circulation routière, on a des signalisations
avec les robots roulages.
Oui, on a des robots. Donc, en fait, dans ce pays, vous savez que l'amélioration, la bonne chose, on ne la sent pas puisque ça vient lentement. C'est comme la bonne santé. Là où tel que tu ne sens pas que tu as un trésor qui est la bonne santé. Tu ne la sentiras que le jour où tu es malade. Tu te dis, mais j'ai perdu quelque chose. Et c'est comme cela. Quand ça arrive, il y a une véritable révolution qui arrivait dans ce sens-là, avec des routes qui sont construites, avec on rend obligatoire le quoi, comment est-ce qu'on appelle, même si Ngombo n'a jamais amené sa Mercedes là-bas, le contrôle de véhicule, contrôle technique. Il y a toutes ces mesures-là qui sont prises améliorent effectivement la circulation. Contrairement à l'Afrique du Sud, ils ont des routes, mais ils ont beaucoup d'accidents. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain comportement sur la route qui n'est pas ici chez nous. On essaie un peu de respecter, même si il y a donc aussi ça... les écoles qui forment les chauffeurs. Et chez nous, je crois que si on avait contrôlé le secteur de formation des chauffeurs, on pourrait même occuper la première place avec toutes les mesures qu'on a prises.
Donc ça veut dire que vous ne partagez pas le scepticisme de certains usagers de la route qui affirment que ce classement est illusoire.
Tout à fait. Parce qu'en fait, lorsque par exemple John dit que c'est, en fait, nous les véhicules sont où? C'est dans les grandes villes. Dans les villages, eh ben, c'est à peine pour eux un accident de véhicule, c'est un événement.
Oui.
C'est un événement parce qu'en fait, d'abord les véhicules sont moins, puis ça roule.
C'est plus des vélos et
tout. Tout à fait. Mm-hmm. Alors c'est en ville que nous avons les accidents. Et c'est en route. Moi, j'allais un peu mettre un peu de doute. Est-ce que on a utilisé effectivement des statistiques fiables. Parce que, généralement, nous n'avons pas de statistiques. Alors, il faudrait maintenant voir quelles sont les statistiques sur lesquelles se sont basées.
Mais, Mary, rapidement. Je voudrais dire que les DP Diana, justement, il abonde plutôt dans mon sens. C'est-à-dire que, en fait, on a moins d'accidents parce qu'on a moins de routes susceptible de connaître des accidents. Mm-hmm. Vous avez des accidents à quel moment? À partir du moment où vous avez des routes qui vous permettent de faire de la grande vitesse. Mm-hmm. Donc, si vous avez des nids de poules partout, vous avez du mal même à atteindre 40 km.
D'accord. C'est pour ça qu'on va aller un peu à Bukavu pour savoir si il y a les améliorations de la sécurité routière. Alors, Jean-Baptiste, est-ce que chez vous, à Bukavu, vous avez constaté aussi l'amélioration de la sécurité routière?
Bon, l'amélioration de la circulation routière à Bukavu, on ne peut pas dire qu'on l'a constaté, parce que au départ même de ce rapport, il y allait de se poser plusieurs questions avec ce qu'on voit sur la chaussée d'ici. D'abord, on voit des chaussées qui sont archidélabrées. Il y a des gens, des motards, des conducteurs de moto qui roulent dans tous les sens. Et il y a absence de casque, le port de casque qui pourtant était obligatoire n'est plus d'actualité. Il y a également l'absence de la prise en charge des victimes, hein, c'est aussi un problème.
Oui.
Ça n'existe pas. On sent qu'à un certain moment, on exige ce que Diana a dit, le contrôle technique, tout ce qu'il y a comme document de bord du véhicule, mais en même temps, on sent que les policiers de roulage sont concentrés à un certain endroit, là où il y a une grande affluence, et d'autres endroits qui sont pourtant très très sensibles, très dangereux, on ne voit aucun police de roulage. Et c'est là que moi je ne peux pas en tout cas dire qu'il y a eu amélioration. Au contraire, on sent ici que le chauffeur roule vaille que vaille, il n'y a même pas de lieu prévu pour s'arrêter, donc il n'y a pas de gare, il n'y a rien. Et même quand on roule, quand on voit sur la route, il y a les s'arrêter même au milieu de la route, parce qu'il n'y a pas d'endroit prévu pour s'arrêter, pour descendre les passagers. Et donc, c'est pas dire vraiment qu'il y a amélioration.
Donc,
par rapport aux accidents, moi, je crois que... Oui, allô, Franklin.
Voilà, alors, en un mot, puisque vous allez devoir conclure, ce rapport, il est biaisé selon vous.
Je ne peux pas comprendre comment on peut être classé ex aequo avec l'Afrique du Sud, pendant que nous avons encore ici des sérieux problèmes par rapport aux routes, et même par rapport... J'ai suivi au capitaine dernièrement, qui a fait une émission sur la mauvaise interprétation des panneaux de signalisation à Lubumbashi, l'absence de mesures d'encadrement des motos, vélos, et j'en passe. Et il y a également le fait que, moi je crois qu'on s'est limité aux grandes agglomérations, parce qu'il y a des territoires où depuis 1980, on n'a jamais vu un seul véhicule passer. Moi je crois qu'on peut calculer ce taux d'accident par rapport au flux des véhicules, on ne peut pas le calculer, dire que non, il y a moins d'accidents pendant que... Si on calcule 2 345 000 km², la superficie de la RDC, je crois que le nombre de véhicules est insuffisant par rapport à ce qu'on devrait avoir à la hauteur de cette superficie.
Merci.
Et cela étant, et c'est de cela qu'on peut dire que non, on a juste tenté de limiter. Ce n'était pas vraiment une analyse qu'on peut dire que c'est fondée sur... les réalités du Congo.
Merci beaucoup, c'est ça aussi votre conclusion. Alors Joachim, vous avez entendu Jean-Baptiste affirmer que il n'y a pas beaucoup d'objectivité, c'est plus dans les grandes agglomérations, alors qu'à l'intérieur, comme il a fait la description chez lui à Bukavu, il y a beaucoup de choses à faire. Comment vous analysez cela?
Ben mais justement, parce que lui, il parle de la route, maintenant ici, on a classé les accidents de route. Il aurait dû nous dire que les vailles que vaille, puisqu'on arrête à gauche, on arrête à droite, il n'y a pas d'endroit, et que les gens se cognent qu'il y a des accidents. Mais si les gens s'adaptent avec leur façon de s'arrêter à Bukavu, mais il n'y a pas d'accident, on constate les accidents, le rapport a été fait sur les accidents et non pas sur un certain comportement sur la route.
Ça tient aussi sur ces comportements sur la route. En fait, il y aura d'ailleurs lundi, à partir de lundi, il y aura une campagne sur l'ivresse au volant, etc. La bonne conduite.
Tout à fait. Et surtout ici, à Kinshasa, et on pourrait encore mieux nous classer si on contrôle cette histoire de moto. Depuis l'arrivée des motos à Kinshasa, il n'y a plus d'insécurité. Sur nous venons de perdre une sœur, une grande dame, cognée par une moto et décidée. Donc, tu sais, à l'époque, moi, quand j'étais à Bukavu, à Goma, j'avais du mal à traverser la route à cause des motos. Et voilà que les motos sont arrivées à Kinshasa, et donc Kinshasa aussi est devenu difficile. Parce que tu vois un petit espace où tu peux traverser, et il y a la moto qui se faufile, et donc l'accident est vite venu. Si on réglemente le motard, moi je pense que Kinshasa pourra encore améliorer sa sécurité routière.
C'est ça, c'est votre conclusion. Alors John, votre conclusion?
Nous saluons ce rapport, c'est bien. Ces rapports doivent nous interpeller sur le rôle, les vrais rôles que la RDC doit jouer. La RDC doit jouer un rôle des têtes. Donnons-nous les moyens pour ce faire.
Et c'est par ici que nous mettons un point final à la tribune de la presse de ce soir. Nous prenons rendez-vous avec vous vendredi prochain à la même heure. Sinon, Dialogue entre Congolais, c'est déjà lundi prochain à partir de 19h15, heure de Kinshasa. Je dis merci à Guy Manzangou qui était aux commandes techniques. Une édition coordonnée par Guy Maté, supervisée par Léonard Moulamba. Derry Franklin Louchaka vous dit merci de l'avoir suivi. Et retrouvez surtout cette émission sur votre site www.radiocapi.net.